Catherine, le matin.
Que la Mauricie se lève. Que la Mauricie se lève.
Il est président de Vigitech, spécialiste en informatique judiciaire, chargé de cours au programme d'enquête et de renseignement à l'Université de Montréal et en plus, bien sûr, ex-enquêteur à la Sûreté du Québec. Paul Laurier est avec nous. Bonjour, M. Laurier.
Bonjour.
Monsieur Laurier, vous avez l'expertise, vous avez beaucoup d'expérience, l'expertise qu'il faut pour nous parler de ce genre de dossier d'affaires qui est particulière, qui est complexe. Celui d'Ophélie Martin-Cyr, il nous manque beaucoup d'éléments en tant que média. Mais évidemment, Monsieur Laurier, ce qui circule dans les médias versus ce que la Sûreté du Québec ou les enquêteurs ont comme information, ça peut être bien différent. Ça ne veut pas dire que nous, on ne sait pas grand-chose, qu'eux ne savent pas grand-chose.
Ben, depuis, il faut comprendre, depuis la découverte du corps, depuis qu'on l'enquête est en branle, depuis qu'on a eu plusieurs actions policières qui se sont faites, l'information est cumulée au fur et à mesure. Il y a tous les fois qu'on a de l'information, on va la valider, on va valider chaque information par une, deux, trois corroborations, et après ça, on va amener ça au procureur. Le procureur, lui, va décider de porter ou non les accusations. Dans le cas-ci, on a déjà des accusations de meurtre pour un, tentative de meurtre pour l'autre. Donc, on a déjà assez d'éléments pour aller de l'avant et dire à la couronne, parce que c'est pas les policiers qui vont accuser, c'est la couronne, ben de porter chaque chef d'accusation. Évidemment, on a plusieurs scènes de crime. On a une voiture, on a un corps retrouvé, on a une voiture incendiée. Possiblement qu'on a, dans les perquisitions de maison, on a trouvé d'autres éléments d'information par l'électronique, par tout ce qui est informatique judiciaire. Ces gens-là se sont parlé, se sont textés, se sont déplacés. Bon, on a des balises, on a des lieux de localisation. Donc, l'essentiel, c'est qu'on va remonter du point du temps zéro jusqu'au moment où on découvre les corps, puis on va refaire dans une ligne de temps, et après ça, on va être capable d'aller devant la cour, devant les assises, possiblement, parce que ces gens-là, il faut comprendre que quand vous êtes accusé de meurtre au premier degré, c'est 25 ans sans libération conditionnelle. C'est 99% du temps, les gens vont se défendre, vont aller à la cour, vont aller devant les assises. Il y a des jurys qui vont avoir à se prononcer sur ce que la police va avoir amené comme élément de preuve. Et les éléments de preuve comprennent aussi les témoins qui vont être rencontrés, qui vont corroborer des faits ou qui vont donner des pistes importantes aux enquêtes. Les policiers doivent suivre ces pistes-là, doivent corroborer les événements. On a un incendie, donc on a probablement de l'essence, on a probablement des bidons d'essence, on a probablement des achats d'essence. Est-ce que c'est fait avec de l'argent? Est-ce que c'est fait avec des cartes de crédit? Est-ce que c'est fait sous caméra? Donc, tous ces petits éléments-là doivent être ramassés, ils doivent être mis dans la preuve, ils doivent être présentés sur une façon logique et séquentielle devant le juge.
Monsieur Laurier, vous qui avez beaucoup d'expérience, qui avez travaillé sur plusieurs enquêtes différentes, quand vous regardez la façon dont les choses ont été faites, là, hier, évidemment, au fur et à mesure, à chaque jour, on apprend de nouvelles informations. Hier, différents médias avançaient le fait que l'une des deux personnes retrouvées calcinée dans le véhicule, dans le VUS, aurait été mutilée. Est-ce que ça vous rappelle d'autres histoires que vous avez déjà couvertes à l'époque, une histoire aussi tordue que celle-là?
Ben, les corps mutilés, j'ai en tête là, celui qui un jeune qui avait mutilé des corps. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mutiler les corps pour les faire disparaître ou pour les... ça peut être un plan A, un plan B, un plan C. On a un meurtre ou une bataille, ou quelque chose qui va arriver, un événement grave, hein, une des personnes décède, et là, par panique, le meurtrier va poser un geste, faire disparaître les corps. Bon, on s'entend faire disparaître les corps, on fait pas ça simplement. Donc, on va peut-être mutiler, peut-être la mutilation est due au fait qu'on veut découper le corps, le mettre dans un endroit où il ne va pas paraître, parce qu'évidemment, on le sait, on va avoir la police autour, c'est les moyens judiciaires maintenant sont assez importants. On parle aussi d'anthropologue judiciaire. Donc, les cas du vide, il y en a beaucoup. C'est pas nécessairement, souvent, c'est par opportunité. Il faut faire disparaître le corps. On l'a vu avec ce qui s'est passé au Concile dans l'histoire des proches du prince en Arabie. Bon, on a fait disparaître le corps. Le corps est rentré dans un consulat. Il n'est jamais reçu. Il n'a jamais sorti. Pourquoi? Parce qu'évidemment, un corps, c'est embarrassant. On va le mutiler. on va le couper et on va le mettre en morceaux puis on va le faire disparaître.
Monsieur Laurier, on entend souvent la phrase suivante, c'est-à-dire qu'il y a certains criminels qui veulent réaliser le crime parfait. Quand on regarde, évidemment, dans ce qu'on possède comme information, dans ce que vous avez lu et entendu, du point A au point B, on constate que le meurtre d'Ophélie est assez complexe. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, plusieurs scènes de crime. Est-ce que, selon vous, les deux accusés, Kegel et Martel, voulaient commettre le crime parfait étape par étape? Est-ce que c'est ce que ça vous dit?
Non, parce qu'on voit les deux jeunes filles, on a des témoins, le crime parfait, ça se fait pas de témoins. Si on a des témoins, il faut les éliminer. Si on élimine les témoins, il faut que ça soit fait parfaitement. C'est loin de là. Moi, je pense que c'est un plan A. On parle de recherche d'argent, on parle peut-être de ce qu'on appelle en termes de drogue, un burn, quelqu'un qui a volé de l'argent ou qui est parti avec de l'argent. On parle d'un montant de 12 000 $, c'est sorti. On va probablement en apprendre plus ce soir. Mais on part d'un plan où on va aller chercher de l'argent, puis là, l'histoire s'enchaîne, il y a des mouvements qui vont se faire par les individus, il peut y avoir une bataille, il peut y avoir quelqu'un blessé gravement, la colère s'empare, c'est des gens qui sont pas stables émotivement, donc on va tuer quelqu'un intentionnellement ou pas. Et là, à partir de ce moment-là, ben, les événements s'enchaînent, on cherche à cacher le corps, on a des témoins, il faut faire disparaître les témoins. Ce qu'on a fait, en partie, on a quelqu'un qui va témoigner. Donc, c'est loin d'être le crime parfait. On dit souvent que le crime parfait n'existe pas. Il y a toujours, oui, il y a des gens qui s'en sont, il y a des meurtres qui ne sont pas résolus, il y a des crimes qui ne sont pas résolus. Par contre, avec la science, on est capable, avec l'ADN, entre autres, on est capable d'avancer beaucoup plus rapidement sur des meurtres non résolus. Donc, il y a pas de crime parfait, mais il y a des gens qui sont quand même, qui doivent respirer. Ouais. Quand on voit les sorties, non, ils doivent moins bien respirer parce que la science avance rapidement.
Monsieur Laurier, en terminant, comme ex-enquêteur, quand vous entendez des témoignages comme, dans l'émission de Robert, puis ça a été le cas dans d'autres médias, les amis d'Ophélie se sont confiés. Il y a des gens qui ont besoin de parler, alors que d'autres vont dire non, je veux pas nuire à l'enquête, je vais me garder une réserve. Ce soir à JE, on va parler au père de l'ami qui a quitté la voiture. Comme enquêteur, est-ce qu'on se dit ah non, ça c'est pas bon pour nous, là. Ça peut peut-être venir sans dire compromettre des preuves, mais est-ce que c'est bon les gens qui parlent pour un enquêteur?
Ben, il y a deux visions là-dessus. Je vous dis, les enquêteurs vont réserver des faits, les scènes de crime, c'est fermé. On sait des choses à l'intérieur. On ne veut pas que les choses ultra confidentielles, exemple une scène de crime, comment elle s'est disposée. Parce que souvent, quand on va aller avoir à faire témoigner quelqu'un, les délateurs vont venir nous parler. On le voit dans les guerres de moteurs. On l'a vu dans les guerres de moteurs. Il y a deux personnes où ils sont pas. Il y a quelqu'un qui veut réaliser le crime parfait, si ça se passe entre deux personnes. Donc, il va y avoir des choses qui sont vraiment, qui se sont passées à l'intérieur d'une pièce, d'un lieu, que seules deux personnes savent exactement ce qui s'est passé. L'une des deux personnes est décédée. Donc, on veut pas que ces informations-là sortent. Par contre, le fait que les informations sortent, des fois, ça fait avancer l'enquête et c'est connu. Les policiers vont se servir aussi des médias, ils vont publier l'information pour ce qu'on appelle brasser les lignes. Dans le fond, c'est qu'on va avoir, on a un réseau, on a des sources, on a parfois de l'aide d'instruments électroniques. Donc, on est capable, en envoyant l'information dans le public, ben, on est capable d'avoir plus de renseignements ou d'aller chercher plus d'informations. Donc, c'est une balance. C'est certain qu'il y a des informations qui ne doivent pas sortir. Par contre, pour faire avancer l'enquête, on le voit régulièrement, on va avoir des photos, tout ça, on va avoir des gens qui vont parler. Donc, on s'entend que si c'est une information qui est connue juste par deux personnes et les enquêteurs, donc faut protéger ces informations-là. C'est comme ça que la police travaille. Mais au Canada, on est plus fermé. Si vous regardez aux États-Unis, ça va être plus ouvert. Si vous regardez en Europe, vous avez un procureur qui, quand on a vu tous les attentats qui sont passés en France et en Belgique, mais les procureurs Molin, entre autres en France, sortaient donner régulièrement le fil des événements avec des détails assez précis dans l'enquête. Donc, c'est des philosophies, je vous dirais, ça dépend des corps policiers, ça dépend vraiment des stratégies d'enquête qui sont déployées, mais il n'y a pas de bonne, évidemment, les informations confidentielles ne doivent pas sortir, mais c'est vraiment des stratégies d'enquête, je dirais, puis ça dépend vraiment comment les gens sont à l'aise à ce que ça soit publié ou pas.
Paul Laurier, président de Vigitech, spécialiste en informatique judiciaire, chargé de cours au programme d'enquête et de renseignement à l'Université de Montréal et ex-enquêteur à la Sûreté du Québec. Merci de nous avoir parlé ce matin.
Plaisir, bonne
Merci,
journée.
Au revoir.